La course relais de la formation sportive sur Radio Cap. Nanambala, au démarrage, passe le relais à deux de l'Ekabé en Ganoula, qui fonce vers le micro et le passe à Kanisou Kongo Sambouy. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Moulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et. Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, heure de Kinshasa. Voilà, je vous remercie de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue. Madame Brigitte Kanika, comment faire pour profiter pleinement d'un crédit obtenu auprès d'une institution financière? La première question, est-ce possible de profiter pleinement d'un crédit obtenu?
Il est possible, oui. Il est possible de profiter d'un crédit qu'on a obtenu, si et seulement si le crédit répond réellement à un besoin qu'on avait. De un, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement avec ces crédits. Ce qui n'est pas toujours évident, hein. Les gens demandent des crédits parce qu'ils ont besoin d'argent, mais dès qu'ils ont obtenu l'argent, c'est mille et un projet qui arrive. Et finalement, l'argent pour lequel on avait demandé les crédits n'est pas utilisé pour ce dont on l'avait demandé. Et même cet argent n'est pas fructifié non plus pour pouvoir être remboursé, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes par rapport au remboursement du crédit. Et c'est un problème vraiment réel actuellement avec toutes les institutions de microfinance ainsi que les banques qui connaissent encore une fois leur sort en RDC. Les gens prennent des crédits, mais le remboursement n'est pas toujours évident.
Voilà, pour certains observateurs, les contextes socio-économiques du pays constituent également une pesanteur contre l'utilisation rationnelle d'un crédit.
Ça, c'est vrai, il y a tous ces paramètres-là qui pèsent pour qu'on utilise rationnellement le crédit. Mais le plus grand problème, c'est d'abord le problème social. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends un crédit, je peux me dire, je vais mettre cet argent pour un petit commerce, peut-être. Mais dès que j'ai les crédits, il y a les enfants qui sont chassés, il y a le problème de minéral, il y a le problème de maladie qui peut s'y venir. Alors ces crédits-là qui devaient me servir au petit commerce, je commence déjà à les ponctionner, payer le minéral, payer le soin de santé, tout ça. Et finalement, je ne fais pas le travail que ces crédits devaient faire réellement. Et les remboursements, où est-ce que je vais trouver l'argent pour rembourser? C'est ce qu'on est en train d'assister maintenant à une spirale d'endettement. On prend un crédit, on le paye par un autre crédit, et vice versa, et on ne fait que s'endetter davantage, et la situation devient chaotique.
Et là, ce sont les institutions financières qui en bénéficient.
Certainement, les institutions financières en bénéficient, mais pas toujours.
Ils ont d'ailleurs à racheter certains encours, et puis pour.
Oh, oui, ça c'est vrai, c'est, ça dépend aussi. Il y a des institutions financières qui en bénéficient, surtout les banques. Parce que un banquier, ne vous en faites pas, il ne vous donne pas les crédits,
hein.
Non, pas du tout. Il ne vous donne pas les crédits pour vos beaux yeux, il vous donne les crédits parce que c'est une institution, en fait, c'est une entreprise. Il commerce l'argent. Et quand il vous donne un crédit, il doit avoir de bénéfices sur le crédit qu'il vous donne. Et pour d'abord qu'il puisse vous donner le crédit, vous devez hypothéquer de biens. Et est-ce que vous prenez 10 000 $ mais vous avez hypothéqué une maison qui a une valeur de 100 000 $ et vous êtes insolvable, donc vous n'êtes pas à mesure de payer ces 10 000 $ qu'est-ce que lui il fait? Il récupère votre maison et peut-être qu'il peut les revendre à 50 000 ou bien lui-même il les rachète, il vous donne de miettes, il vous donne la différence et puis lui il en bénéficie. Mais pour les institutions de microfinance, c'est pas toujours pareil. Pourquoi? Parce que la microfinance est faite d'abord pour le pauvre. C'est pour permettre...
Les dames petits, les secteurs informels, plus les secteurs informels.
Donc, la microfinance est créée pour que les dames petits puissent accéder à des fonds pour financer leurs activités. Et cela, la plupart du temps, ne demande pas des gages. C'est plus ce qu'on appelle la caution morale. Donc, il y a peut-être un groupe de gens qui sont co-signataires. Ils forment un groupe, par exemple, de 10 personnes. On donne à une des personnes de ce groupe le crédit et tous les autres deviennent solidaires par rapport au crédit qu'on a donné. Et quand la personne n'est pas solvable, on fait la pression à tout le groupe. Mais reste aussi à vérifier si le groupe aussi a des moyens pour payer. C'est seulement ça crée maintenant une sorte de psychose. Et je crois qu'il n'y a pas... je suivais un documentaire au niveau de l'Inde qui a aujourd'hui un cas très élevé de suicide par rapport toujours au problème de microfinance. Parce que on donne le microfinance aux femmes. Ces femmes-là ne sont pas en mesure de payer parce qu'elles ont utilisé le crédit dans le besoin social. Elles ne sont plus en mesure de payer. Maintenant, ce sont les créanciers qui viennent les injurier, tout ça. Et elles préfèrent se donner la mort que de subir des humiliations.
Donc, c'est le préjudice moral.
Le préjudice moral.
Clairement, on est dérangé à la longueur de journée.
Parce que quand c'est une caution solidaire qu'on a donnée, c'est toute la communauté qui est derrière vous pour vous faire pression. Alors, les gens préfèrent mettre fin à leur vie. Et j'ai suivi il n'y a pas longtemps sur TV5, il y a un monsieur en France qui a tué toute sa famille, sa mère, sa femme et son enfant. Parce qu'il avait 100 000 euros de dette. Il était incapable de le payer, alors il a préféré la mort. Et c'est là, aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas encore arrivé, mais on constate des cas.
Avec le boom que nous constatons au niveau des banques, parce que les banques commencent à venir, c'est comme en début de l'année 2000, on a vu l'arrivée, le boom téléphonique, les gens, les maisons téléphoniques qui arrivent. Alors c'est pareil
mais
avec les banques.
C'est
avec les banques. Nous risquons un jour d'arriver à des cas pareils.
Et on va y arriver certainement. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit vous-même, les conditions sociales et économiques ne sont pas assez favorables pour que, quand on a pris un crédit, qu'on soit en mesure d'avoir de le payer à temps et dans les mêmes conditions qu'on avait pris le crédit. Prenons l'exemple tout simplement de la dépréciation monétaire. Vous pouvez acheter quelque chose aujourd'hui à 10 $. Demain, vous allez le retrouver à 15. Donc, il y a déjà une dépréciation de 5 $. Et vous, si vous avez pris un crédit de 100 000 $, demain, ça ne sera plus le 100 000. Ça va être 150, 200 000. Mais quelles sont les activités que vous menez réellement pour vous permettre à payer ces 150? C'est pourquoi il y a cette insolvabilité. Et de deux, il y a aussi le taux de banque. Parce que je ne crois pas qu'il y ait une banque qui a moins de 25% de taux d'intérêt. Imaginez que vous avez pris 100 000 et que vous devez rembourser 125 000. Et cela peut-être pendant une année. Et l'activité pour laquelle vous avez pris l'argent, il faudra d'abord que ce soit à mesure de vous procurer les 25 000 de surplus que vous devez payer à la banque. Et de deux, ça doit aussi vous amener à fructifier vos activités. Ce qui n'est pas toujours évident dans une société où l'économie n'est pas très stable. Ce qui fait qu'il y a vraiment des problèmes très sérieux de remboursement au niveau de banque, d'où les conditionnalités pour accéder à ces crédits deviennent de plus en plus difficiles. Parce que quand on vous fixe un taux d'intérêt de 30%, c'est pas une méfiance réelle.
Tu vas contacter un crédit tout en hypothécant, par exemple, sur des comptes finales. Donc, en accord avec son employeur.
Oui, ça se fait aussi en accord avec son employeur. On se dit, bon, je prends un crédit. Au cas où je ne suis plus à mesure de payer, c'est ma décompte finale qui va payer. Là, au moins, ça va. Si on sait qu'on a un emploi assez stable et assez rémunérateur. Celui-là, je crois d'ailleurs que je peux l'encourager. Pourquoi? Parce que si vous avez un emploi assez stable, d'ailleurs, c'est ce qui se vit en Europe, dans le pays développé, en tout cas, on fait plus de crédit. Mais le mécanisme mis en place, le mécanisme économique, arrive à favoriser cela. Mais aujourd'hui, je prends un crédit pour construire ma maison, par exemple. Je prends la banque et je dis, ça sera remboursé si je n'arrive pas à tout rembourser. Ma décompte pourra payer ce bien. Mais je me retrouve sans emploi. Tout mon argent de décompte est déversé pour payer le crédit. Comment, moi, je vais vivre demain? Nous n'avons pas une sécurité sociale qui pourra dire qu'après que je sois invalide ou quoi, que je n'ai plus d'emploi, la sécurité sociale peut me payer. On paye 1000 francs ou 2000 francs. Comment je peux faire vivre ma famille avec le 1000 francs? Donc, quand vous essayez d'analyser tout ça, vous voyez que les conditions ne sont pas assez favorables pour qu'on puisse s'aventurer dans le crédit.
081-890-63-77, c'est pour les appels, et les 081-070-20-50 pour les SMS.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capitaine.
Donc quelqu'un qui a un emploi stable peut oser et peut s'aventurer à prendre quand même un crédit parce que là il y a quand même des garanties, mais encore faut-il avoir un projet.
C'est très important. Franchement, il faudra qu'on se mette ça en tête. Ne vous aventurez pas à prendre un crédit pour le plaisir d'avoir un crédit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des crédits pour s'acheter des voitures, pour s'acheter des belles costumes et des bijoux. C'est bien beau. Mais est-ce que cette voiture, est-ce que ces bijoux que vous prenez aujourd'hui, que vous achetez aujourd'hui, pourra vous aider demain? C'est d'abord ça la question.
Parce que c'est un bien, c'est un bien matériel, c'est, ça pourrait s'amortir.
Vous pouvez l'acheter aujourd'hui à 100 000 $ et demain vous passez au boulevard, on vous coigne et c'est fini.
Voilà.
C'est fini, ça n'a plus de valeur. Investissez dans des projets d'avenir. Par exemple, se construire une maison, c'est un avenir. Faire une activité génératrice de revenus, on peut encore s'aventurer parce qu'on sait si on...
Il y a le risque, il y a quand même des risques, comme
on
dit, le risque...
Il y a des risques énormes, il y a des risques énormes. Comme j'ai dit, on disait tantôt qu'il y a des gens qui se tuent à cause de ces crédits. Il y a des gens qui sont contre. Moi, je connais un cas de monsieur qui a pris l'argent dans une de banque et il n'arrivait plus à rembourser. Il n'a fait que fuir le pays. Donc, on vous amène dans une sorte d'exil forcé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus à mesure de payer les
produits. Oui, nous avons donné l'information. Il y a quelqu'un qui s'est lancé dans un commerce de produits périssables. Et je prends le cas de haricots. Voilà, tout un bateau qui transportait ces produits. Après avoir déjà reçu un crédit. Alors, il y a eu peut-être un délai pour transporter ces produits qui étaient dépassés. Et puis, le produit n'avait plus saveur. Il a perdu énormément. Et aujourd'hui, tout l'argent qu'il avait dans son crédit, il avait versé dans ses commerces, tout est parti, et maintenant le créancier réclame sa maison. Donc cette dame était vraiment dans une anxiété.
C'est toute votre vie qui est en moule, hein, parce que finalement, c'est tout ce que vous avez investi pendant des années qui risquerait de partir dans ces affaires de crédit. Donc moi, je conseille aux gens de ne pas s'aventurer. Avant de prendre un crédit, voyez d'abord si même l'activité que vous voulez faire sera à mesure de rembourser réellement les crédits. Parce qu'aujourd'hui, nous les Congolais, nous avons un problème. Nous avons le souci de tourisme.
La Chine, par exemple, attire plus d'un Congolais, la Chine aujourd'hui.
Oui.
Parce que Télé est allé à
le problème, parce que Télé est parti et qu'il a réussi et que moi aussi je dois le faire. Et finalement, c'est tout le monde qui le fait. Et finalement, ça ne porte plus. C'est aussi ça le problème. Ceux qui ont fait l'activité le premier, ils ont bénéficié. Mais quand vous faites 200, 300, 400 à faire la même activité, finalement, et voilà, et ce qui fait que les histoires ne marchent plus convenablement, et on se retrouve dans une situation où on ne sait plus comment rembourser les crédits qu'on a pris, et ça devient un problème.
L'idéal, c'est d'aller vers des experts en développement, comme vous, pour peut-être orienter certains, parce qu'ils ne sont pas tous censés d'avoir une idée sur le développement, comment organiser un projet, madame.
Bon, en fait, il y a deux dimensions. Hein. Il y a ceux qui peuvent se lancer dans le projet de développement. Je peux prendre un exemple, l'agriculture. Mais malheureusement, rares sont les banques qui acceptent de donner des crédits pour investir dans l'agriculture. Elles sont rares, si pas inexistantes. Il y avait une banque, la Banque de Crédit Agricole, mais qui n'existe plus. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que vous pouvez aller dans le banque commercial pour dire que voilà, je vais investir dans la production des haricots, dans la production
du
café, donnez-moi un crédit. Pourquoi? Parce que d'abord, on sait que l'agriculture, ça prend le temps que ça peut prendre. Et c'est en plus que l'agriculture au niveau de la RDC est encore aléatoire au niveau de la fédération générale, hein, est encore aléatoire. Donc, nous nous remettons entre les mains du bon Dieu. Quand il pleut, on peut produire. S'il ne pleut pas, on perd tout. Alors, c'est difficile.
Donc, on s'en tient seulement aux avantages naturels.
Si Dieu nous fait grâce et il pleuvra, on aura une belle saison.
On peut produire. Des études au préalable.
Ce sont les conditions. On peut produire à toute saison, sans problème, parce que les conditions qu'on a mises en place ne sont plus assez aléatoires. Donc, on ne s'entend plus seulement à la nature. Et là, on investit dans l'agriculture, on donne des crédits pour les crédits agricoles. Il y en a beaucoup.
Madame, un autre domaine sur lequel quelqu'un peut baser, c'est par exemple, disons, comment on appelle ça, c'est vrai, l'agro-pastoral, vous avez une ferme, par exemple, ça peut produire. Nous avons aujourd'hui toutes les alimentations qui nous fournissent les charcuteries. Tu vois, ce sont des gens qui travaillent dans les fermes qui ont quand même la facilité de pouvoir donner. Et c'est quand même un domaine qui paye bien.
C'est un domaine très porteur. Mais je reviens encore à la question. Est-ce que nos banquiers connaissent cela? Est-ce qu'ils savent les avantages qu'on peut avoir quand on investit dans tel domaine? Est-ce que même les investisseurs eux-mêmes, est-ce qu'ils savent ça? Quand vous allez à l'est du pays, là oui. Parce que là-bas, l'agro-pastoral, ça marche très bien. La charcuterie,
c'est là. Les guerres, les auraient toujours existé.
Oui, et ça serait assez développé. Mais il y a de quoi, ce n'est pas évident. Même quand vous êtes ici à Kinshasa, ce n'est pas évident. Quand vous parlez à quelqu'un d'histoire de ferme, d'abord, quand on appelle d'abord une ferme, vous allez voir que c'est une étendue non utilisé, qui est là avec ses herbes naturelles, mais quelqu'un vous dit ça, c'est ma ferme. En quoi est-ce que c'est une ferme? Parce que on n'a pas non plus ces notions-là. Alors, si ceux qui ont acheté la ferme n'ont pas cette notion, à combien plus forte raison le banquier qui peut investir? Le banquier veut, quand il investit son argent, qu'il soit sûr que je vais récupérer mon argent. Mon argent est investi dans tel domaine. Et c'est pourquoi, bon, je ne sais pas, au niveau de la microfinance, oui, mais au niveau de banque commerciale, je ne sais pas s'ils ont tout système d'étudier les dossiers de demande de crédit.
Donc, madame, si je comprends bien, la demande d'un crédit doit être au prorata, donc disons, le crédit doit être au prorata du projet, donc le budget du projet, afin d'évaluer tous les risques, les facteurs de risque.
Et tout ça, ça doit être fait. Au niveau de la microfinance, ça au moins, parce que c'est un domaine dans lequel je travaille.
Oui.
Là, je sais, quand vous demandez un crédit, vous devez introduire d'abord une demande de l'activité que vous devez faire, et la commission des crédits doit évaluer si réellement l'argent pour lequel vous demandez le crédit, l'activité pour laquelle vous demandez le crédit est rentable et sera réellement à mesure de rembourser. Et on doit vous accompagner aussi dans l'accomplissement. Donc, il y a aussi cet élément. On doit vous accompagner dans les activités que vous êtes en train de faire pour que ça ne tombe pas en faillite et pour que vous soyez à mesure de payer, de rembourser les crédits. Mais dans le banque, je ne sais pas ce que ça fait réellement parce que je ne travaille pas dans le domaine de banque. Mais je me demande est-ce que réellement il y a une étude.
Pour les banques commerciales, il n'y a pas de suivi. Comme
il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. De ce que vous allez faire réellement de l'argent demandé, mais soyez seulement capable de rembourser.
C'est
pas le problème. Mais dans la microfinance, non. On doit vous accompagner dans l'activité que vous êtes en train de faire pour que ça soit rémunératrice et que réellement vous arriviez à rembourser les crédits.
C'est une mauvaise pratique de payer crédit par un autre crédit?
Non, mais c'est tout simplement une engrenage. À partir du moment où vous payez le premier crédit par le deuxième crédit, vous serez obligé de payer le deuxième crédit par le troisième.
Non, on s'intéresse aux plus offrant.
Non, et à chaque fois, s'il vous plaît, parce que le premier crédit a un taux d'intérêt que vous devez payer. Quand vous prenez le deuxième, il faudra que le deuxième crédit rembourse le taux d'intérêt
et que vous gardez la différence.
Non, il n'y aura plus de différence. Il y aura plus, parce que ça devient maintenant un engrenage et vous risquez de ne plus jamais vous en sortir. Moi, j'ai toujours dit, vous n'êtes pas capable de payer un crédit, ne vous aventurez pas, s'il vous plaît. Prenez d'abord le temps de vous asseoir, d'essayer de mesurer les pour et les contre avant de vous lancer dans cette affaire de demande de crédit. C'est assez porteur. Ça aide. Mais moi, je préfère encore le microfinance, qui sont surtout dans les systèmes de mutualistes, c'est-à-dire ce sont deux gens qui se mettent ensemble, qui commencent à cotiser leur argent sous forme d'épargne. Ils commencent à épargner ensemble, et dès qu'ils ont réuni un certain montant, ils commencent à s'octroyer des crédits.
Et là, un
crédit rotatif. Ils sont bénéficiaires, utilisateurs et acteurs même propriétaires de leur entreprise, parce que c'est une entreprise. Ils en sont bénéficiaires, clients et propriétaires. Et en ce moment-là, le suivi est assez poussé. Et quand quelqu'un prend le crédit, tout le monde les connaît, tout le monde peut le suivre, tout le monde peut voir ce qu'il est en train de faire et l'aider dans ce qu'il fait. Mais en ce qui concerne les banques, c'est bien. Quand vous avez des grandes activités, quand vous avez aussi des grandes capacités de réflexion pour vous dire « je vais faire ça, je vais faire ça », donc vous avez déjà étudié tous les paramètres, alors vous pouvez vous aventurer. Sinon, le crédit sera de vous plus alors, malheureux que ce que vous étiez avant.
Donc, si je comprends bien, même au niveau de microfinance, quand vous avez un crédit, c'est pour renforcer votre chiffre d'affaires.
Oui. C'est pourquoi il y a même la commission de crédit qui doit étudier pourquoi vous avez demandé les crédits. Et là, dans le microfinance, on essaye de catégoriser les crédits. On vous dit les crédits pour les besoins sociaux, parce que la microfinance est aussi une de ses missions. C'est pour qu'elle arrive aussi à rendre service à ses membres.
Lutter contre la pauvreté.
Lutter contre la pauvreté et rendre service à ses membres. C'est pour ses membres. Alors, il y a une certaine enveloppe, un pourcentage du montant global qu'on fixe pour les crédits à caractère social. Par exemple, vous voulez construire une maison, vous voulez vous marier, vous voulez marier votre enfant, vous voulez scolariser les enfants, on peut dire pas au-delà de 10% de l'enveloppe globale. Le reste, c'est pour les activités génératrices. Parce que le crédit social, la plupart des fois, sont remboursés difficilement. Les taux d'impayés qu'on retrouve plus dans le microfinance, vous allez les trouver dans les crédits sociaux.
Voilà, 081-890-63-77, c'est pour les appels. Et vous pouvez également nous faire parvenir vos réactions ou vos préoccupations au travers des SMS en composant, bien entendu, le 081-070-2050.
Découvrez les après-midi de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des balades zigzag. Et enfin, un brin de culture, c'est en découverte. Et rendez-vous Radio Okapi pour des après-midi promeneurs. Découverte, de lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec Nico Joudek.
Madame Belinda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Goma, quelle est votre préoccupation?
Oui, je voulais demander à Madame Tani, qui je viens de la suivre avec toutes mes attentions, donc tout ce qu'elle a dit là, ça m'intéresse, parce que moi je voulais me lancer dans une activité de vente, hein. Je voulais vendre des bijoux, hein. Donc je suis une ménagère, j'ai étudié mais je n'ai pas encore trouvé d'emploi, je voulais avoir d'emploi. Et puis, quand nous avons beaucoup de responsabilités dans le foyer, dans la famille, avec les membres de la famille, donc je voulais quand même me lancer dans une activité génératrice de revenus. J'ai vu que donc, les bijoux, comme ce sont des biens qui sont non périssables, je peux me lancer dans cette activité. Ça peut quand même amener quelque chose dans la famille. Maintenant, les moyens, c'est le moyen vraiment qui n'est pas...
Et qui font défaut.
Qui n'est pas... Oui, qui nous fait défaut.
Mmh.
Je peux me lancer avec un petit montant, mais ça ne suffira pas.
Alors, il faut recourir au crédit.
Oui, peut-être un microfinance. Hein.
Oui, mais alors, madame Kaniga, est-ce que madame Belinda peut frapper à la porte d'une banque ou carrément s'intéresser à la microfinance?
Madame Belinda,
c'est pas une petite affaire.
C'est pas une petite affaire d'abord. Quand il parle de la microfinance, je ne crois pas que la microfinance pourra financer les activités de vente de bijoux. Parce que si j'ai de bons renseignements, je sais que si vous voulez acheter des bijoux, par exemple, en Asie, ça, un kilo, c'est 10 000 dollars. Aucun microcrédit n'arrive à 10 000 dollars. Microcrédit, en principe, ça varie entre 50 et 1 000 dollars maximum. Et si vous voulez prendre un crédit auprès de la banque, c'est pas mauvais. Mais d'abord, Madame Belinda, je vous conseillerais de bien étudier votre projet. Le bijou que vous allez vendre, allez-vous le vendre à crédit ou cash? Parce que tel que je connais la façon dont nous autres, le maman, nous achetons le bijou, c'est toujours à crédit. Et on peut vous dire qu'on va vous payer peut-être vous donner l'échéance de un mois, mais c'est pas toujours évident qu'on va vous payer après un mois. Et pourtant, au niveau de la banque, déjà au premier mois, vous êtes obligé de commencer à rembourser les crédits. Est-ce que votre activité, vous l'avez bien étudiée? D'abord, ça, le premier élément. En économie, on dit toujours, il faut d'abord vendre avant d'acheter. Cela veut dire quoi? Il faut que vous soyez sûr, Madame Bélina, que vous êtes capable de couler vos marchandises avant même de vous lancer dans ces commerces. C'est seulement à ce moment-là que vous, quand vous avez déjà étudié tous les paramètres, vous connaissez les clients potentiels et les clients solvables en plus. C'est à ce moment-là que vous pouvez aller toquer à la banque pour qu'on vous donne les crédits. Et en ce moment-là, vous êtes sûr de rembourser. Mais si vous n'êtes pas sûr, Madame Belinda, réfléchissez d'abord. Sinon, ça risque de vous créer beaucoup plus de problèmes que ça ne puisse résoudre le vôtre.
Alors, c'est comme tu dirais.
Oui.
Vous avez compris?
Merci. Comme vous l'avez dit auparavant, que c'est tout le monde maintenant qui va en Chine, à Dubaï. Donc, on ne sait plus quoi faire. Les travaux sur les tickets, on n'a pas d'emploi, tout ça, vraiment, ça nous amène au chaos.
Voilà.
Il n'y a pas de chaos, c'est question de réfléchir un tout petit peu, Madame Belinda.
Il faut bien étudier la relation entre producteurs et consommateurs. Mm-hmm. Si vous étudiez minutieusement, même les marchés, hein, donc c'est simple dans le cadre du marketing, mm-hmm. vous aurez à atteindre l'objectif poursuivi, ça c'est vraiment important. José de Inga, là nous sommes au Bas-Congo. Bonjour José.
Bonjour.
Votre préoccupation, José?
Ok. Je voulais demander une préoccupation à notre expert.
Allez-y.
Ok. Il y a quelqu'un qui a pris une dette, hein, qui est allé faire une dette. Et maintenant, savez-vous qu'en RDC, il y a beaucoup de réalités. On a démoli quelque part où il a arrangé pour peut-être vendre ce soir des congélateurs qu'il a achetés et enfin. On a démoli. Maintenant, cette personne-là, comment est-ce qu'il peut arriver à payer, soit c'est à rembourser ses dettes qu'il a pris en bonne conscience?
Monsieur José, vous devez savoir qu'en économie, il n'y a pas de sentiment.
Mm-hmm.
Cette personne a pris l'argent auprès d'une institution financière qui n'est pas caritative. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné les crédits par sentiment, mais on lui a donné des crédits parce qu'il doit rembourser avec intérêt. Donc, si on a démoli là où il est en train de travailler, c'est à ce risque et péril, il est contraint de payer, sinon il va tout perdre. C'est pourquoi je suis en train d'insister, avant de vous lancer dans le crédit, il faut d'abord bien étudier tout le paramètre possible.
Environnemental. Et il faut savoir aussi l'endroit sur lequel vous allez mettre votre site, hein, parce qu'il y a des sites anarchiques, qui sont déclarés anarchiques, qu'on va exproprier plus tard. Alors tout doit être étudié, comme on dit, l'étude au préalable. Et ça vous permet de vous faire une idée très claire sur ce que vous allez faire. Merci.
Oui.
Merci José, vous avez encore autre chose à ajouter?
Oui, j'allais maintenant dire, maintenant pour le moment, comme l'expert venait de dire que pour les crédits agricoles aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Or, bien que les conditions naturelles ne permettent pas, soit parfois ça permet, parfois ça ne permet pas. Or, sinon, le meilleur moyen de donner les crédits aux gens, ce n'est que les crédits agricoles qu'on peut facilement donner aux gens, parce que nous savons bien que dans notre pays, on peut facilement produire dans certaines cultures, on peut utiliser et on peut gagner quelque chose là-bas et vous pouvez facilement payer vos dettes. Mais aujourd'hui, ça devient un peu impossible pour qu'on vous octroie une dette agricole. Voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation.
Merci José. Je vous rappelle que vous nous appelez du Bas-Congo. Merci d'avoir été de notre merci et à la prochaine. Alors, Madame Brigitte Kanika, expert en développement, je crois que beaucoup, bon nombre nous ont suivi. Elle aimerait bien être en contact facilement avec vous, hein, pour se faire une idée sur les crédits bancaires. Nous n'hésiterons pas à aller passer votre numéro.
Oui, il n'y a pas de souci.
Le 081-521-5326.
Ouais.
Merci, Madame, d'avoir accepté notre invitation et bonne semaine.
Merci beaucoup.